RCF. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Rémi Jabet, volontaire en service civique au pôle média des jeunes européens de Strasbourg. Merci à vous d'écouter RCF Alsace, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire Place de l'Europe et ce soir nous allons parler du féminisme en Europe. Et oui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, comme toujours, je suis très bien accompagnée. Bonsoir Gwen Taburé.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Vous êtes étudiante en relations internationales, en plus d'être responsable média de dans notre association et vous présentez l'émission L'habit ne fait pas l'Europe sur Radio Arc-en-Ciel. Alors, pour parler féminisme, ce soir, vous vous êtes entretenue avec Pierrette Esberger-Fofana, députée européenne.
Oui, tout à fait. On a parlé du travail du Parlement européen pour l'égalité femmes-hommes et en même temps de son rôle en tant que femme politique au sein des institutions européennes.
Et on aura l'occasion de l'écouter plus tard dans l'émission. Continuons notre tour de table. Carnet d'exploration, c'est le nom de son émission diffusée sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il vous invite à découvrir avec lui les différentes formes que prennent les musiques expérimentales. Aujourd'hui, ce n'est pas de la musique dont il est venu nous parler, mais bien de féminisme. Bonsoir à vous, Clément Payen.
Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous. Quel rôle a l'Europe dans la cause féministe? Ce sera le thème de votre chronique. Bonsoir Romane Sourieux.
Bonsoir à tous.
Vous êtes volontaire en service civique aux Jeunes Européens de Strasbourg dans le cadre de la simulation du Parlement européen qui se tiendra à Strasbourg le week-end du 24 avril prochain et les inscriptions vont bientôt être ouvertes. Bienvenue à tous les trois et un grand merci d'être avec nous. Vous écoutez Place de l'Europe, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Ce soir, nous consacrons notre émission au féminisme. C'est la journée internationale des droits des femmes. Alors Clément, je me tourne vers vous. Quelle est l'histoire du féminisme à l'échelle européenne?
Alors déjà, petite précision qui me semble pertinente. Il faut savoir que les mouvements féministes en Europe se manifestent de manière différente d'un pays à l'autre. En grande partie déjà du fait que des choses sont déjà acquises dans certains pays et pas pour d'autres, mais aussi que c'est des questions de culture et des affaires de ce que les pays laissent comme place au mouvement féministe. Par exemple, dans les années 70, les pays à l'est du rideau de fer avaient déjà le droit à l'avortement, entre autres parce que l'égalité des sexes faisait partie de l'idéologie des régimes en place. Voilà, mais particulièrement du coup dans le monde du travail. Par contre, le féminisme en tant que mouvement social revendiquant des droits était perçu comme une déviance bourgeoise et pas vraiment très acceptée. En France, des actions étaient faites, mais pas forcément très bien vues, certes, mais quand même concrètes et efficaces. Par exemple, on a le Mouvement pour la Libération des Femmes, le MLF, qui a activement lutté pour faire reconnaître le viol comme un crime, car oui, ce n'était pas le cas à l'époque. En 1971, sort le manifeste des 343 dans le Nouvel Obs, soit 343 femmes disant publiquement s'être fait avorter. Le manifeste a notamment été une marque de soutien au procès de Bobigny, l'histoire d'une ado qui s'est faite avorter après un viol et qui a finalement été acquittée. Car oui, l'avortement, comme la contraception d'ailleurs, n'était pas légal. Le MLF a grandement participé à sa légalisation. Mais pas qu'en France d'ailleurs. En réaction, un collectif allemand fera de même en publiant le « Wir haben abgetrieben »« Nous nous sommes fait violer » dans le journal Stern. Bon, excusez mon allemand, il n'est pas...
Non, mais c'était très bien.
Pas incroyable. En Angleterre, dans les mêmes années, les années 70, on a différents mouvements comme l'Equal Pay Act qui a pour but d'avoir les mêmes salaires ou l'Employment Protection Act contre le licenciement abusif en cas de grossesse. Tous ces mouvements vont également inspirer le Parlement italien à approuver, dans ces mêmes années-là, une loi pour le divorce et décriminaliser l'avortement en 78. Et pour parler de mouvements un petit peu plus modernes, dur de parler de féminisme en Europe sans parler des Femen, un mouvement très médiatisé né en Ukraine en 2008. L'une des principales raisons de la naissance d'un tel mouvement est en fait la chute de l'URSS qui a fait se poser la question de la nouvelle place des femmes dans les pays d'Europe de l'Est. Et pour parler d'autres choses récentes, on a en Espagne l'affaire de la Manada, une affaire de viol organisé par 5 hommes sur une jeune femme de 18 ans qui a créé une vague de conscientisation très forte, à tel point qu'on parle actuellement d'une nouvelle vague espagnole. On peut aussi parler des actions récentes sur les réseaux sociaux comme le hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc. Et voilà, si les revendications dans les années 70 étaient majoritairement tournées autour de l'accès à l'avortement et la contraception, actuellement il est plus question du harcèlement, de la place des travailleuses du sexe, des femmes voilées ou de la communauté LGBTQ+. En bref, du coup, pour résumer, on est à plus de 50 ans de féminisme en Europe et dans le monde, et même si certaines choses ont déjà évolué, il reste encore des combats à mener.
Et oui, le combat continue. En 50 ans, il y a eu quand même une grande évolution du féminisme aujourd'hui. Mais qu'en est-il aujourd'hui, justement? Alors, comme vous l'avez très justement rappelé, Clément, les féministes en Europe sont confrontés à de nombreux enjeux sensibles dans la représentation dans la sphère politique, l'égalité salariale, le droit à l'avortement, les violences faites aux femmes, en passant aussi par la notion de genre, qui fait désormais partie des concepts du féminisme européen. Romane, quel est le grand défi auquel l'Europe fait face aujourd'hui?
La grande difficulté pour l'Union européenne, c'est c'est bien de mettre au même diapason les États qui la composent sur diverses thématiques. C'est notamment le cas de la prostitution. Des clivages existent depuis très longtemps entre les pays abolitionnistes comme la Norvège et la France et les pays qui réglementent cette activité comme l'Allemagne et les Pays-Bas.
Et cette question est au centre des préoccupations, mais ne fait pourtant pas l'unanimité.
En effet, certains considèrent que la prostitution constitue une forme de violence envers les femmes, tandis que d'autres la défendent comme étant un métier comme un autre. Au sein même de l'Union européenne, les thématiques, les revendications et donc les avancées ne sont pas comparables. Cela s'explique entre autres par des politiques nationales propres à chaque pays. Par exemple, en Hongrie, l'action féministe porte plus sur les questions d'indépendance financière et des conditions de travail des femmes plutôt que sur le droit à l'information et à l'avortement, qui est autorisé, contrairement à l'Allemagne où cette question est fortement débattue. En effet, en Hongrie, les femmes doivent cumuler plusieurs emplois et s'occuper de leurs enfants, ce qui représente une charge assez lourde au quotidien. Cela, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut également citer la question de l'avortement en Pologne, qui possède l'une des législations les plus restrictives d'Europe, contrairement à la France, où ce droit est acquis depuis la loi Veil de 1975. Alors, quel rôle joue l'Europe dans la cause féministe ?
C'est la question.
Oui, donc elle a notamment favorisé une prise de conscience en matière d'égalité des sexes. Cette valeur fondamentale est inscrite, je rappelle, à l'article 2 du traité de Rome et a fait l'objet de discussions à la Commission européenne en mars 2020. Cette dernière a dévoilé sa stratégie quinquennale en faveur de l'égalité homme-femme avec des mesures concrètes pour l'extension des domaines de criminalité aux violences sexistes et sexuelles comme le harcèlement, la maltraitance et les mutilations génitales. L'Union européenne a donc son rôle à jouer en matière d'influence des politiques nationales et sert aussi de cadre géographique et politique où la question du féminisme se pose avec acuité.
Mais cela suffit-il à affirmer l'existence d'un féminisme européen ?
Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question. Chacun a sa propre perception de ce qu'est le féminisme européen ou ce qu'il devrait être. Pour certains, il est difficile d'imaginer de rassembler toutes ces luttes dans un mouvement global dont les considérations se font plus au niveau national avec des mesures concrètes pour chaque pays. Pour d'autres, la citoyenneté européenne renforcerait davantage l'engagement féministe. Pour l'heure, le lobby européen des femmes est l'une des rares organisations européennes qui associe Europe et féminisme. Créé avec le soutien de la Commission européenne et basé à Bruxelles, le LEFT croit en une Europe féministe, agissant pour l'égalité, la justice sociale, une Europe où les femmes participent dans les structures de pouvoir et à la prise de décision, et où les formes de violence à leur égard sont éliminées.
Eh bien, merci beaucoup Romane, j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie pour arriver à une égalité parfaite homme-femme, même si ce long chemin n'est pas tout à fait terminé. La députée européenne Pierrette Esberger-Fofana est d'ailleurs du même avis, elle a fait du féminisme son combat de tous les jours, n'est-ce pas Gwentebury ?
Oui, elle est écrivaine et elle a fait effectivement du féminisme son sujet de prédilection dans ses livres. Elle est également membre suppléante à la commission des droits des femmes et à l'égalité des genres au Parlement européen.
On écoute Pierrette Esberger-Fofana.
Bonjour Madame Hetzberger-Fofana.
Oui, bonjour Madame Tabouret.
Tout d'abord, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes députée européenne allemande depuis 2019 sur la liste des Verts. Avant cela, vous avez été élue au conseil municipal de la ville d'Erlangen en Allemagne de 2005 à 2019. Et vous êtes également écrivaine, votre thème de prédilection étant la littérature féminine francophone subsaharienne. Au Parlement européen, vous êtes membre suppléante de la Commission aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Donc on souhaitait aujourd'hui vous interviewer aussi bien pour votre travail à la commission femmes du Parlement européen que pour votre statut de femme politique européenne. Depuis quelques années, on constate un essor de la cause féministe dans le débat public, notamment chez les jeunes. Avez-vous le sentiment que les choses changent suffisamment au niveau européen ?
Bon, tout d'abord, moi aussi, je vous remercie pour cette interview. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir avec des personnes avec lesquelles je partage les mêmes attentes crochues, à savoir la question femmes d'une façon très générale. Donc pour répondre à votre question, si j'ai le sentiment que les choses changent, oui, moi j'ai le sentiment, je peux même dire que nous constatons qu'il y a eu des progrès en ce qui concerne l'égalité hommes et femmes, mais bien sûr il reste encore beaucoup à faire, tout n'est pas terminé, on n'a pas encore atteint vraiment l'égalité parfaite. Et d'autant plus que nous avons constaté ces dernières années qu'il y a eu une recrudescence de certains droits que les femmes avaient acquis dans certains pays d'Europe. Ils ont été, détournés, oui, pour être poli, et qu'ils ont été vraiment détournés, et que ces acquis-là, on les a un tout petit peu perdus, ce qui a donné un peu naissance à une violation, enfin, naissance qui a donné lieu à une violation et une exploitation croissante des femmes et des jeunes filles dans le monde entier. Et évidemment, la pandémie de Covid-19 a eu aussi un impact considérable sur les femmes et les filles, et ça a donc en fait exacerbé les inégalités déjà existantes. Et d'une façon générale, surtout ici en Europe, les femmes ont été très touchées par les conséquences du Covid-19 et elles ont donc été aussi les victimes de cette augmentation de la violence sexuelle, la violence domestique, le harcèlement sexuel. Et donc tout cela, ça devrait nous permettre d'ouvrir les yeux et se demander pourquoi on a fait, durant cette pandémie, un pas en arrière. Et donc, je pense sincèrement que pour éliminer toute cette violence, il faudrait que tous les États membres ratifient et respectent la Convention d'Istanbul. Bien sûr, en ratifiant, ça ne va pas tout de suite arrêter la violence, mais au moins, il y aura un article, il y aura une loi qui permettra aux femmes dans certains pays d'Europe, surtout les six derniers pays qui n'ont pas ratifié la convention, ça permettra aux femmes de pouvoir réagir, aller en justice et puis faire respecter ce droit-là, que personne n'a le droit de faire violence à son prochain.
Alors justement, voilà. au sujet de la pandémie et de la recrudescence des violences faites aux femmes. 2021, c'est encore une année où le taux de violences faites aux femmes reste bien trop haut, comme l'année précédente, du fait des différents confinements qui ont été mis en place partout en Europe. En conséquence, la présidence portugaise du Conseil a inclus dans ses priorités la création d'une ligne téléphonique au niveau européen pour centraliser les témoignages de ces femmes victimes de violences. Ne trouvez-vous pas que cette décision, elle n'est pas un peu trop éloignée des citoyens? Est-ce que l'Europe, c'est véritablement le niveau pertinent pour tenter de régler ce problème?
Bien sûr, davantage doit être fait pour, si vous voulez, pour donner la priorité à la lutte contre la violence qui est perpétrée contre les femmes. Mais tout d'abord, il incombe aux États membres de tout faire pour résorber ce fléau-là. Maintenant, la question de la ligne, une ligne au niveau européen, je peux vous dire que cela existe en Allemagne déjà. On a une ligne où les femmes peuvent appeler en Allemagne, où elles peuvent s'adresser, appeler, et 24 heures sur 24, elles ont la possibilité de faire leur déclaration, de dire ce qui leur est arrivé, et ceci dans, non seulement en allemand, mais dans plusieurs langues, hein, notamment les langues des minorités, c'est-à-dire en arabe et dans plusieurs langues africaines. Donc c'est quand même un point. Et nous avons aussi autre chose, il y a aussi, peut-être, je ne sais pas si ça existe en France, mais je n'ai pas encore entendu parler, en Allemagne nous avons aussi ce qu'on appelle les maisons, pendant très longtemps on a appelé ça les maisons pour femmes battues. Bon, aujourd'hui on appelle ça les maisons de femmes, tout simplement. Et ces maisons-là, c'est un refuge pour les femmes qui sont victimes et leurs enfants, elles peuvent y aller. Et en général, c'est anonyme. On ne sait pas où se trouve la maison. Il faut qu'elles téléphonent. Et là, elles trouvent vraiment paix et sécurité et des femmes qui écoutent ce qu'elles ont subi et évidemment qui essaient de leur faire, de les conseiller. Et pas toujours comme, malheureusement, en Allemagne, beaucoup ont cru que les maisons de femmes, c'était pour conseiller les femmes de divorcer. Non, on essaie tout simplement, un peu de façon un peu familière, de les remettre sur les rails, c'est-à-dire de leur redonner confiance afin qu'elles puissent développer de nouvelles perspectives. Et je pense que peut-être ce serait pour les États membres un exemple. Ça peut être un exemple, il existe probablement d'autres exemples en France aussi, afin de renforcer donc les efforts dans la lutte contre la violence sexuelle ou sexiste. Hein. Et là, il faut que tout le monde s'engage. ce n'est pas seulement l'Union européenne qui doit s'engager, ce sont d'abord les gouvernements, les partenaires de la société civile, et puis aussi les hommes. Parce que si les hommes ne s'engagent pas, ça va être très difficile de changer quoi que ce soit. Donc, je dirais la participation de tous est donc primordiale pour combattre la violence qui affecte des millions de femmes dans le monde entier.
Place de l'Europe.
Pierrette Weisberger-Fofana sur RCF Alsace ce soir. Nous la retrouverons tout à l'heure pour la suite de l'interview. Alors la Maison des Femmes dont parlait à l'instant la députée européenne allemande existe bel et bien en France. Elle n'est pas encore totalement déployée. Elle a vu le jour en 2016 à Saint-Denis en Île-de-France. Des petites sœurs de cette association se déploient en France et en Europe comme Bordeaux, Brive ou encore Bruxelles. Fin décembre 2020, une campagne a été lancée afin de récolter des fonds pour créer un lieu à Marseille. Alors plusieurs associations se déploient en France et en Europe. C'est notamment le cas des Lyon, lancé en Amérique du Nord en 2018 et qui arrive progressivement sur notre pays et sur notre continent. Alors je vous rappelle les numéros 3919, c'est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. L'appel est gratuit et anonyme. Ou bien vous pouvez composer le 114, c'est un numéro d'alerte par SMS pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. Cependant, ce numéro est accessible à toutes et à tous lorsque l'on ne peut pas sortir de chez soi ou bien faire du bruit. Alors nous allons faire une pause musicale. Quoi de mieux que d'écouter un artiste engagé sur le droit des femmes? C'est Grand Corps Malade, bien sûr.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bonsoir à vous, vous écoutez Place de l'Europe, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous poursuivons notre émission consacrée au féminisme européen. Alors Gwen, vous souhaitiez ce soir nous parler de la place des femmes dans les institutions européennes.
Et oui Rémi, c'est un sujet qui enquiquine pas mal le monde, la place des femmes en politique, parce qu'après tout, on a le droit de vote, alors de quoi on se plaint? C'est quand même dingue qu'en 2021, on doive rappeler encore et encore que la femme est tout aussi capable de construire un propos réfléchi et tout aussi pertinent, voire plus qu'un homme. Mais bon, soit. Bien que les traités et les textes législatifs de l'Union européenne défendent l'égalité entre les femmes et les hommes, la juridiction européenne n'impose pas la parité au sein de ses institutions. Le triangle institutionnel grouille de femmes ultra diplômées et ultra qualifiées, mais leur nomination à des postes clés reste timide. Le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, par exemple, est composé à 100% d'hommes. Et si vous me rétorquez que oui, mais quand même, leur chef, Christine Lagarde, c'est une femme, à ce que je sache...
C'est pas suffisant.
Eh bah oui, bah je vous répondrai que oui, effectivement, une personne sur sept, c'est quand même pas la parité. Hein. On a dû attendre 2019, soit 62 ans, pour avoir enfin deux femmes à la tête d'institutions européennes majeures, et leurs nominations ont à peine été mentionnées dans les médias, alors que c'est quand même un événement extrêmement notable pour la cause féministe en Europe. On peut quand même citer le poste de haut représentant pour les affaires étrangères qui n'a été occupé que par des femmes de sa création en 2009 jusqu'en 2019. Premièrement par la britannique Catherine Ashton de 2009 à 2014, puis par l'italienne Federica Mogherini de 2014 à 2019. À l'inverse, le Conseil européen n'a toujours été que présidé que par un homme.
Mais il y a quand même du progrès, non?
Alors oui, on ne va pas tout jeter à la poubelle non plus. On constate qu'il y a du progrès pour réajuster la balance entre le nombre de femmes et d'hommes au sein de ces institutions. La commission, actuellement, elle est composée de 12 femmes pour 27 commissaires, soit 44,4%. Même si la parité n'est pas atteinte, c'est quand même un très bon chiffre, faut l'admettre. Le Parlement, quant à lui, atteint le taux de 40,4%. C'est pas mal aussi. Et puis, il faut le dire, de nombreuses femmes politiques sont de vrais moteurs de la construction européenne actuellement et s'imposent comme des femmes de pouvoir dans ce monde bien trop composé majoritairement par la gente masculine depuis trop longtemps. Alors, on a vu Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, mais aussi Angela Merkel, chancelière allemande, Margrethe Vestager, pardon, commissaire à la concurrence, Sanna Marin, première ministre finlandaise, Kaja Kallas, première ministre estonienne, etc., etc.
Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?
Eh bien, atteindre véritablement la parité femmes-hommes dans les institutions et se pencher ensuite sur la question d'inclusivité des personnes noires, asiatiques, handicapées et de toutes les autres minorités afin que nos institutions tendent le plus possible vers une véritable représentation de ce qu'est notre belle et grande Europe.
C'est vrai qu'elle est belle, hein, notre Europe. Merci Gwen, vous restez avec nous. Vous avez interrogé Pierrette Esberger-Fofana, députée européenne allemande, sur la représentation des femmes et des minorités dans les institutions européennes. On l'écoute.
Avez-vous l'impression qu'il est plus difficile de se faire une place au sein du Parlement européen en tant que femme ? Et pensez-vous que la représentation des femmes dans les institutions européennes en général est satisfaisante à l'heure actuelle ?
Bon, il faut d'abord reconnaître que le Parlement européen est un défenseur de l'égalité femmes et hommes. Hein. Et dans ce sens-là, le 21 janvier, le Parlement a même voté un ensemble de mesures en matière de cette égalité. Hein. C'était, vous voyez, c'est donc assez récent. Il y a eu des efforts de part et d'autre, de réels efforts ont été fournis ces dernières années, puisqu'actuellement au Parlement, nous avons 40% de femmes, donc c'est énorme. Et au niveau du personnel administratif, en tout, c'est 60% du personnel féminin. Et chez nous, les Verts, par exemple, nous avons par exemple une coprésidente au niveau, la coprésidente des Verts, Ska Keller. Parmi les coprésidents et vice-présidents, il y a aussi des femmes. Mais évidemment, moi je dirais, c'est pas assez. Hein. Et je pense que les autres institutions européennes devraient peut-être aussi au moins déjà prendre exemple sur le Parlement, puisque 40%, c'est pas la moitié, c'est pas encore la parité vraiment, mais c'est mieux que rien. Il reste encore beaucoup à faire, que les femmes, d'une façon générale, et c'est dans le monde entier pratiquement, elles demeurent minoritaires dans les hautes fonctions. Et ce qui me concerne maintenant, plus particulièrement en tant que femme noire, je trouve que les minorités sont beaucoup trop peu représentées au niveau du Parlement, puisque nous ne sommes que 6 femmes d'origine africaine sur 705 députés. Et en plus, il y a encore une autre minorité qui n'est absolument pas représentée, ce sont les Asiatiques. Il n'y a aucun député d'origine asiatique. Mon engagement personnel, je peux dire, lorsque je prends la parole en tant que suppléante de la commission femmes, j'insiste donc sur le fait qu'il devrait y avoir une approche intersectionnelle et qui pourrait ainsi garantir les droits humains de les femmes et les filles partout en Europe, mais aussi dans le reste du monde. C'est que partout dans le monde, il devrait y avoir la possibilité que toutes les composantes de la société soient représentées et ça aurait aussi l'avantage que ça mettrait fin aux discriminations.
Alors, une dernière question pour conclure. Si vous aviez vraiment une mesure phare à prendre pour la cause des femmes en Europe actuellement, ce serait laquelle ?
La mesure essentielle pour moi, ce serait l'approche intersectionnelle. Parce que il ne s'agit pas seulement imposer des quotas ethniques, non, mais il y a aussi, pourquoi je parle de l'approche intersectionnelle, il y a des groupes, certes il y a des groupes ethniques qui ne sont pas représentés, mais vous avez des minorités comme par exemple les femmes qui vivent avec un handicap, qui aussi ne sont pas représentées, bien que chez nous, les Verts, nous avons un député, avec une femme d'ailleurs députée, avec un handicap. Donc ce serait une approche intersectionnelle que je plaide pour cela. Ce serait la mesure qui, à mon avis, pourrait rendre comme on parle de la diversité vraiment visible. Ce serait la mesure que si je devais prendre ou s'il y avait une fée qui me donnait un bâton magique. Voilà. Voilà. Ce serait ce que je dirais.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Hetzberger-Fofana, d'avoir répondu à nos questions.
Voilà, c'est moi qui vous remercie.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Et c'est à mon tour de remercier Pierrette Esberger-Fofana pour cet échange très passionnant. L'intégralité de son interview est à retrouver sur notre site internet. C'est la fin de notre émission déjà. Un grand merci à vous, Clément Payen, Gwen Taburé et Romane Surieux d'avoir été dans Place de l'Europe ce soir pour parler féminisme. Cette émission vous a été présentée par l'association Transpartisane des Jeunes Européens de Strasbourg. Nous sommes partisans pour une Europe plus sociable, plus démocratique et à terme plus fédérale. Rendez-nous visite sur notre site internet jeunes-européens-strasbourg.eu pour ne rien manquer à nos activités. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve le 5 avril prochain. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne soirée à vous.